Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
2023, 60e anniversaire de la disparition d'Édith Piaf, la grande chanteuse. C'est un événement qui nous touche parce que la personne d'Édith Piaf a marqué les cœurs de plusieurs générations. Pierre Fesquet, vous êtes comédien, je me souviens d'un très beau spectacle de Peggy pour lequel vous partagez la scène du Poche Montparnasse avec Michael Lonsdale, notre regretté ami. Et vous publiez chez Salvatore un livre sobre et touchant, vibrant, Piaf, un cri vers Dieu. Alors samedi, vous participerez aux hommages, au programme à 10h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Il y aura une grande messe hommage qui sera donnée en présence des proches de l'artiste et de nombreuses célébrités du monde de la musique. À 11h45 sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, il y aura un concert gratuit, ouvert à tous, assuré par Anne-Sophie Guerrier, la voix de Montmartre, accompagnée de son accordéoniste. Et puis à 14h30 au cimetière du Père-Lachaise, il y aura un dépôt de gerbes et une bénédiction de la tombe d'Édith Piaf. Vous savez qu'au moment du décès, l'archevêché de Paris avait donné un communiqué, je cite, « Si les honneurs de l'Église réservent à ses défunts ne peuvent lui être rendus en raison d'une situation irrégulière, l'aumônier de l'Union catholique viendra lundi au cimetière du Père-Lachaise prier sur la tombe de l'artiste. » Pas de messe donc en ce début d'octobre 1963. Il ne nous appartient pas de juger les âmes, mais vous racontez, Pierre Fesquet, la vie d'Édith Gassion, Édith Giovanna Gassion, dite Édith Piaf, née le 19 décembre 1915 à Paris 20e. Sa mère est chanteuse de rue, son père est contorsionniste dans les cirques, ça démarre très mal.
Ah oui, ça démarre très mal. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Oui, c'est une vie très émouvante. Et vous avez évoqué Michael Lonsdale. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Michael parce que il avait connu Édith Piaf. Et avec Édith Piaf, ils ont eu tous les deux la grâce de l'odeur de rose promise par Thérèse de Lisieux, qui promettait d'envoyer une pluie de roses.
Alors Thérèse de Lisieux, justement, Édith Piaf est confiée, enfin la petite Édith est confiée, la petite Édith Gassion est confiée à sa grand-mère qui tient une maison close.
Oui, c'est ça, à Bernay.
À Bernay, il y a cinq prostituées qui sont là.
Exactement.
Qui vont être ses cinq petites mamans, dit-elle.
Absolument, des dames de petite vertu, mais qui ont une très grande foi.
Oui.
Une très grande foi, parce que Édith souffre d'une kératite. Une inflammation de la cornée, et elles vont partir en pèlerinage.
Alors, justement, on essaye de la soigner, on pousse les meubles, la petite se cogne partout, et finalement, la grand-mère, Madame Gassion, la mère Macrel, finalement, propose de faire un pèlerinage à Lisieux, c'est pas très loin, de Bernay, et elles partent en pèlerinage, parce qu'elles prennent le car, le train, les pieds, enfin, j'en sais rien, et elles arrivent à Lisieux. Elles prient Sainte-Thérèse, et Madame Gassion récupère de la terre.
Exactement. Sur la tombe de celle qui n'est même pas vénérable, hein, la petite Thérèse. Il y avait eu 10 ans auparavant, Reine Fauquet, la petite Fauquet qui avait été guérie de sa cécité, parce qu'on avait pris de la tombe sur cette religieuse. Enfin, sur la tombe de cette religieuse. Exactement.
Il y a pas vraiment encore une tombe récente.
Et voilà, et là, on est en 1919, Édith a 4 ans et demi.
Et on lui frotte les yeux.
Voilà, avec l'ophtalmo est
furieux.
Mais oui. Et il ne se passe rien les premiers jours. Et le jour de la Saint-Louis, Saint-Louis c'est le nom de son père, Louis Gassion.
Le 25 août.
Le 25 août. Elle est miraculée, elle va descendre les escaliers et la petite est guérie, elle va tout de suite vers le piano.
Alors elle va tout de suite vers le piano. Elle est reconnaissante naturellement et plus encore. Elle a la foi, elle ne manque jamais de prier, d'entrer dans une église, de brûler un cierge, de retourner même à Lisieux sans qu'on la reconnaisse pour aller prier.
Elle va même faire quelque chose d'incroyable. On est en 1925, année de la canonisation de Thérèse de Lisieux. Elle est à Saint-Jean-de-Maurienne parce qu'elle est sur les trottoirs avec son père qui est contorsionniste. Elle est au spectacle de son père et elle va fuguer dans son dos et elle repart à Lisieux. L'année de la canonisation, elle verra Thérèse dans sa chasse et elle dira « J'ai vu ce qu'était la vraie gloire, ce qui m'a permis de ne pas croire en la mienne. »
Alors nous allons l'entendre précisément dans une interview, Édith Piaf qui parle à peu près de sa foi et de l'amour.
Édith Piaf, chaque fois qu'on vous voit réapparaître sur cet écran pour chanter, on a l'impression d'assister à un miracle qu'on n'attendait plus. D'où vous vient cette force, ce courage qui vous tire toujours des plus mauvais cas?
Je pense que c'est la foi en tout.
Vous croyez à la chance?
Je crois tout simplement.
À la destinée?
Non, je crois pas à la destinée, je crois que les bonnes choses arrivent si on le désire. Et je crois qu'on peut sortir de n'importe quelle mauvaise situation.
Dans votre vie, jamais vous ne vous êtes dit, lorsque vous étiez malade, par exemple, ou au lit, qu'il y avait des limites et que ces limites, vous les aviez franchies?
Bien, c'est-à-dire, quand on est malade, évidemment, c'est très dur d'avoir un bon moral. Mais tout de même, même si il m'est arrivé de me laisser abattre un petit peu. Immédiatement, je reprenais le dessus en me disant non, c'est pas possible, je m'en sortirai, j'y arriverai.
Votre vie a été plutôt désordonnée, tourmentée. D'autres artistes en sont plus ménagés de leur vie. Est-ce que vous pensez que si vous les aviez imités, vous couleriez des jours plus tranquilles?
Oh, probablement. Je pense que je n'aurais pas donné ce que j'ai donné au public. Et je pense que, comme tout ce que je fais, si je donne quelque chose, je le donne entièrement.
Vous ne croyez pas aux économies?
Ah non, surtout pas.
Ni moralement, ni matériellement?
Oui, surtout pas.
Vous ne pensez pas à la vieillesse, par exemple?
Non. Quand elle arrivera, on le verra bien.
Est-ce que vous avez peur de la mort? Est-ce que vous avez eu peur de mourir?
Non, je n'ai pas peur de la mort.
Vous y avez pensé?
J'y ai pensé. Je l'ai accepté. Ça avait dû arriver. Je pense que j'étais prête aussi.
L'une de vos chansons que vous avez chantée il y a un an s'appelait « Je ne regrette rien ». Vous l'avez chantée ici à Sainte-Colonne.
Oui.
C'était une chanson qui a bouleversé les gens parce qu'on croyait que c'était de vous que vous parliez. Est-ce que c'était de vous que vous parliez? Lorsque vous jugez votre vie, est-ce que vraiment vous ne regrettez rien? Si vous pouvez la refaire?
Exactement la même.
La même. Vos chansons chantent toujours l'amour. Mais on sait que pour vous, l'amour n'est pas qu'un mot, n'est pas seulement un thème de chanson. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Edith Piaf?
Mais ce qu'il m'a donné.
C'est-à-dire?
Le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire.
Des déceptions aussi?
Je n'ai jamais été déçue.
Vous ne vous êtes jamais dit que l'amour, les chansons, ça n'a qu'un temps. Qu'est-ce qu'il y aura après pour vous?
Je ne sais pas, mais il y aura toujours quelque chose.
Vous ne posez pas la question?
Non.
Beaucoup de vedettes vous doivent leur carrière, de vedettes aujourd'hui, des hommes d'ailleurs surtout. Qu'est-ce qui vous poussait à les lancer?
Parce que je pense que je devine à travers les êtres. Je crois que j'ai ce sens de double vue. Même si personne ne le voit, moi je sais que 2 ans après, je vois le personnage tel qu'il sera.
C'est un peu la même chose pour vous, découvrir quelqu'un ou découvrir une chanson?
Oui, c'est la même chose. Tout ça, ça se retrouve.
Aujourd'hui encore, vous avez découvert quelqu'un?
Oui, j'ai découvert un garçon qui, il y a 2 mois encore, n'avait jamais chanté de sa vie et qui était venu pour travailler comme secrétaire. Là, il n'était pas doué du tout, je l'ai vu tout de suite. Et puis, comme il était très sympathique, je lui ai posé des questions, j'ai essayé de le connaître, et puis je l'ai fait un jour chanter, je me suis rendu compte qu'en le faisant travailler, c'est un garçon qui pouvait faire quelque chose de très bien dans la chanson. Mais non seulement il a dépassé mes espoirs, mais il a été à une rapidité folle.
Vous allez chanter avec lui?
Oui.
Comment s'appelle cette chanson?
La chanson s'appelle « Ça sert à quoi l'amour ?» Et lui s'appelle Théo Sarapo.
Pierre Fesquet, quel don de discernement d'Edith Piaf qui arrive à discerner chez ses contemporains,
oui.
Ceux qui sortiront, je pense à Aznavour, je pense à Mouloudji,
les compagnons de la chanson, Yves Montand
bien sûr.
Elle a confié à son ami Hugues Vassal, qui était son photographe et qui me l'a dit, que c'est sa cécité qui lui a permis d'avoir...
Vous racontez ça très bien dans le premier chapitre.
Merci beaucoup, monsieur. D'avoir ce don de double vue, elle sentait des choses. Quand elle a entendu les trois cloches qui était chanté par Gilles, qui était un homme de cabaret, qui n'avait pas une très bonne voix, elle a tout de suite senti la bonne chanson, et il y a un compagnon de la chanson qui m'a dit, moi je l'aurais jamais prise vu chanter comme ça.
Et, oui, elle a donc ce... et puis alors moi je trouve qu'il y a un abandon à la Providence, à la Miséricorde surtout, d'autant que les contemporains lui sont hostiles, parce que miraculé peut-être, mais vivant dans la maison du diable, un bordel, vous n'y pensez pas, si Dieu choisit les siens, c'est certainement pas dans un claque, ils oubliaient que Jésus avait prédit que les putes et les voleurs nous précéderaient au royaume de Dieu. Donc...
Oui.
On a là quelque chose d'assez bouleversant.
Thérèse de Lisieux parle notamment de l'admiration qu'elle a pour Sainte-Marie-Madeleine. Et Edith est une autre Sainte-Marie-Madeleine. Quand elle va perdre une petite fille, c'est celle, Marcel, eh bien, elle n'a pas assez d'argent, elle a 19 ans pour payer des obsèques religieuses, et elle va vendre son corps. Elle l'a juste fait une fois pour que sa fille ait des obsèques religieuses. C'est quelque chose de très émouvant.
C'est très bouleversant. Alors,
oui.
Non, mais le début de la vie d'Edith Piaf, enfin, c'est incroyable hein, quand même. Quand vous racontez ça vraiment, je le redis, très, très, de façon très émouvante, mais quelle vie incroyable, quelle hérédité incroyable hein, aussi bien du côté de son père que du côté de sa mère, enfin, finir effectivement chez sa grand-mère paternelle qui tient une maison close. Là, enfin, c'est... Franchement, on se demande comment...
Et alors, avec cette discrétion, vous le racontez très bien, elle va être très très généreuse, elle va offrir la réfection de vitraux d'une église en disant au curé, surtout, vous dites pas que c'est moi, ou vous n'en parlerez qu'après ma mort.
Voilà, le curé d'Elbeau, ce curé d'une petite, une petite église du 19e siècle, hein, qui n'avait rien de... Elle a été touchée par cette église, au lieu dit de Martel, à Gluges, et le 11 octobre 63, il y a eu une messe pour Edith, et le curé dit, les vitraux, le toit... C'était Edith Piaf, mais il fallait pas en parler de son vivant.
Et il y a plein de dons comme ça qu'elle va faire, et elle le dit à un moment donné, on vient de l'entendre dans l'interview, l'argent, ça part, ça vient, et elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et elle va mourir sans le sou.
Absolument.
Et elle va mourir sans le sou, pas parce qu'elle l'a dilapidé, mais parce qu'elle a énormément donné.
Oui, j'ai une tante religieuse qui a connu Herbert, son demi-frère, et qui disait, ma sœur, c'était une cloche, parce qu'elle a donné à tout le monde, et voilà.
Alors, et ça se ressent cette fois, ça se ressent dans ces chansons. On est habitué à entendre des grandes chansons d'amour, on va en entendre. Mais il y a une chanson qui est particulière, qui est Jérusalem.
Ah oui.
Et qui est assez d'actualité. Expliquez-nous.
Absolument. C'est une chanson qui est très peu connue, qui a été enregistrée à la fin de la carrière d'Edith Piaf. Et elle ne l'a jamais chantée sur scène. Hier soir, j'étais à Bernay pour donner un témoignage. Eh bien, les gens ne connaissaient pas cette chanson qui est d'actualité.
Et je pense que nos auditeurs vont la découvrir. L'amour du monde, la douleur du monde, la colère du monde, avec cette vocalise orientale quand elle chante Jérusalem.
Elle avait un arrière-grand-père d'Afrique du Nord. Hein.
Oui.
Donc on voit qu'elle a cette couleur incroyable.
Et là, on est complètement dans le Nouveau Testament. Hein. Et elle le dit, elle le chante avec une foi incroyable. Il y a une autre chanson, c'est Sœur Anne, dont la fin est magnifique. Vous pouvez nous en parler, Pierre Fesquet. Vous l'évoquez dans votre livre Piaf, un cri vers Dieu, publié chez Salvatore.
Oui, absolument. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et Piaf prophétise un peu ce qui s'est passé, je trouve, au moment du Covid, parce qu'elle parle d'une terre sans culture agraire, de jeunes qui ne savent plus rire, de vieux qui sont enfermés. Et ça annonce un petit peu ce que nous avons pu vivre. La chanson à la fin, elle dit, mais je vois un enfant et sa mère qui arrivent, qui vont nous sauver, mais déjà il porte sa croix.
Voilà. Un enfant et sa mère qui vont nous sauver, déjà il porte sa croix, Sœur Anne.
de Michel Aimert, Sœur Anne. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois des soldats couverts d'armes, prêts à mourir et à tuer. Partout, je ne vois que des larmes, le monde semble s'y habituer. Je vois plus violente que la peste, la haine couvrir l'horizon. Les hommes se déchirent, se détestent, font d'hier mitrailleuse prison. L'amour qui n'a plus rien à faire vient de quitter à son tour. Sur terre, il était solitaire. L'amour a besoin de l'amour. Je vois des enfants sans leur mère, je vois des parents sans enfants, des paysans sans leur terre, je vois des terres sans paysans, je vois de grandes maisons vides et de grands vides dans les maisons, des gens au visage livide qui marche sans chanter de chansons, des hommes qui essaient de sourire, des femmes au regard si heureux, des vieux qui ne savent plus rire, des jeunes qui sont déjà vieux. Je vois une grande lumière qui semble venir de très loin. Je vois un enfant et sa mère. Mon Dieu, qu'ils sont loin. Voici qu'ils s'approchent de la terre. Divine colère chassera les démons pour toujours. Bientôt reviendront sur la terre la vie, la pitié et l'amour. Sœur Anne, quand va-t-il
Sur les applaudissements, je rappelle ces quelques mots. Je vois une grande lumière qui semble venir de très loin. Bientôt reviendront la vie, la pitié et l'amour. On en a des frissons.
On est très ému. C'est Charles Dumont qui m'a aidé dans la préparation de ce livre me disait elle communiait au plus haut degré des sentiments. Elle transfigurait ses croix en scène. C'est pour ça que elle a souvent été imitée, mais jamais égalée.
Mais oui.
La voix de Piaf, elle vient de sa foi.
Et elle est complètement incandescente.
Exactement.
Et lorsqu'elle elle a une gestuelle qui est très, très curieuse, parce que lorsqu'elle salue, elle a les mains dans le dos, comme une écolière. Et lorsqu'elle chante, elle a les mains le long du corps.
Oui.
Et elle n'a que 46 ans, elle fait 26 kilos, 1m48, et on dirait une petite vieille, elle a les mains qui sont toutes marquées déjà la vieillesse, comme si elle donnait tout et elle avait tout donné.
Exactement.
Il y a une chanson, on a encore un peu de temps, qu'on n'entend pas souvent, qui date de 1953, et qui s'appelle « Et moi sans toi, je suis perdu ». Elle chante l'amour toujours, mais n'est-ce pas non plus une prière, « Et moi », et la prière, celle du cœur.
ne savais pas poudrier, je n'avais pas la manière. Si quelquefois je l'ai fait, c'était lorsque j'avais faim. Maintenant, chaque matin, je fais la même prière. Donnez-moi aujourd'hui son amour quotidien. Les arbres ne peuvent pas vivre sans la pluie. Les fleurs ne peuvent pas éclore dans la nuit. Sans eau, les poissons d'or ne respireraient plus. Et moi, sans toi, je suis perdu. Sans brise, le voilier ne pourrait avancer. Sans la musique, personne ne pourrait plus danser. Sans le soleil, les oiseaux ne chanteraient plus. Et moi, sans toi, je suis perdu. Je n'ai ni foi ni loi. Quand tu es loin de moi, tout est sombre et sans joie. Sans toi, sans toi, tout semble amer. La terre est un enfer. Tu m'es plus nécessaire que l'air. Les blés pour se dorer ont besoin de lumière. Dieu, pour être adoré, a besoin de mystère. Le cœur des hommes sans amour ne battrait plus. Et moi, sans toi, je suis perdu.
On a tous des frissons dans le studio en écoutant cette merveilleuse chanson, et moi de 1953. Et il n'y a qu'à écouter ces chansons pour comprendre la pertinence de votre livre, Pierre Fesquet, Piaf, un cri vers Dieu, paru chez Salvatore. Alors, il faut aussi parler, mais on a très peu de temps, des hommes. Elle aime et veut toujours aller au bout des choses, des histoires, des amours. Il y a Louis Leplay, 83 avenue de la Grande Armée, qui est retrouvé mort chez lui, assassiné. Il fut le premier vrai directeur d'Edith, le patron du cabaret Le Guernice, rue Pierre Charron. Il y a Raymond Asso, qui sera un parolier enthousiaste, fidèle et talentueux. Elle fréquentait la rue Pigalle, c'est d'elle qu'il parle souvent. Il y aura Yves Montand, Charles Aznavour, Pils, qu'elle épousera, et puis Marcel Cerdan, l'immense boxeur, champion du monde. Elle lui coud dans son short une médaille de Sainte-Thérèse et prit la Vierge de Lisieux avant le grand combat, le championnat du monde. Et Marcel Cerdan va boxer avec une médaille de Sainte-Thérèse dans le short.
Avec en plus la prophétie, elle a eu l'odeur de rose en priant la petite Thérèse que Marcel Cerdan soit champion du monde. Et elle lui dit « Tu seras champion du monde ». Elle lui prophétise ça.
Odeur de rose, les roses de Sainte-Thérèse, est-ce que c'est ça qui va donner la vie en rose?
Oui, et alors ça c'est incroyable. La vie en rose, c'est elle qui l'a composée, hein, paroles et musique. Comme elle était généreuse, elle a mis un musicien pour qu'il puisse toucher les droits à la SACEM. C'est extraordinaire.
Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on vole sur les...
Sainte-Thérèse, oui, je prends dans votre livre « Devenue grande, Piaf ». Devenue la grande Piaf, pardon, elle comparera souvent sa vocation artistique à celle de Sainte-Thérèse. Elle dit « Une scène, c'est un champ clos, une arène. Il faut combattre, il faut gagner, comme Thérèse l'a fait. C'était une pêcheuse d'âme. Moi aussi, je vais les pêcher. Mais il faut avoir Dieu avec soi. Ouais. » Alors, interview, c'est cité par Hugues Vassal.
Exactement.
Donc, elle est totalement mystique. Elle est d'une fidélité incroyable. L'Église, comme je le rappelais, va parler de sa vie irrégulière et donc va refuser un enterrement et même une bénédiction. Il y aura juste une prière.
Il y aura une bénédiction au cimetière. Il y a eu quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle a sauvé un prêtre du suicide.
Oui.
L'abbé Martin, ouais, qui allait à son propre échafaud et qui entend la voix de Piaf, un peu miraculeusement, et il retrouve sa vocation, la joie de vivre, il quitte la dépression, il rencontrera Piaf, et il veillera son corps pendant 3 jours boulevard Lannes, il dormira même sur un canapé de l'entrée, parce qu'il n'y avait pas de lit pour lui.
Oui, parce qu'elle meurt en province, mais comme il fallait dire qu'elle est morte à Paris, on va transporter son corps.
Voilà, elle voulait que la légende Piaf continue, donc elle avait dit « Vous annoncerez ma mort à Paris », et le corps est parti de nuit de Grasse à Paris.
Il n'y aura pas de générique, puisque nous nous quitterons avec Édith Piaf.